السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'on se réunit fraternellement afin de traiter d'un sujet de la plus haute importance. Le bonheur, chers croyants, est un objectif commun auquel se sont associées toutes les créatures, humaines et même animales. Il n'est pas une créature vivante dans cette terre sans qu'elle ne soit à la recherche du bonheur, de ce qui lui procure apaisement, réjouissance et joie. Ainsi, tous les hommes sont associés dans ce but et cet objectif commun qu'ils ont tous, à savoir atteindre le bonheur. Mais ils se sont tous séparés par la suite dans la conception que chacun d'entre eux se fait de ce bonheur et de la manière de l'atteindre, de la façon d'y arriver. Ainsi, certains ont pensé que le bonheur s'acquiert dès lors que l'on amasse les biens de cette vie d'ici-bas, dès lors que l'on devient riche, voire plus riche qu'autrui, on devient heureux. Ils ont œuvré en ce sens et ont fourni d'immenses efforts. Ils ont acquis tout ce que les gens souhaiteraient tant posséder, et pourtant, ils n'ont pas trouvé le bonheur tant recherché. D'autres parmi les gens ont pensé que le bonheur réside dans l'abondance des voyages. Ils ont parcouru la terre à la quête de la joie, du bonheur intérieur. Ils ont dépensé des biens qu'ils possédaient afin d'atteindre ce bonheur qu'ils n'ont finalement pas trouvé. D'autres ont pensé tout simplement que le bonheur s'atteignait en se laissant aller dans cette vie et sans fournir d'efforts pour le rechercher ni pour l'atteindre. Et au final, ils se sont retrouvés tristes. D'autres ont pensé que le bonheur, chers croyants, réside dans le fait d'adhérer à telle ou telle croyance parmi les dogmes, les croyances qui ne sont pas celles légiférées, voulues par le Créateur, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Et au milieu de tout cela, certains ont compris où est le bonheur. Certains ont su, avec une science certaine, une conviction ferme et inébranlable, que le véritable bonheur, le bonheur par excellence, réside nulle part ailleurs que dans la soumission au Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il en est ainsi, car le Seigneur est le Créateur des cieux et de la terre, des hommes et des animaux. Il est celui qui leur a octroyé la subsistance qu'ils mangent, les plaisirs desquels ils ne cessent de jouir. Ainsi, il attend d'eux au retour qu'ils se soumettent à ses ordres et qu'ils manifestent cette servitude pour laquelle ils ont été créés. C'est le but de notre création, dont nous informe notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, lorsqu'il nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ces deux espèces vivantes que sont les djinns et les hommes n'ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala que pour lui vouer le culte sincèrement, exclusivement, que pour être ses serviteurs, ses adorateurs. Il n'a nullement besoin de nous. Il n'a nullement besoin de nos adorations. Il n'a nullement besoin des œuvres que nous faisons ici-bas. Elles ne sont que dans notre intérêt. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Ayya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes les indigents devant Allah. Vous êtes les besogneux devant Allah. Quant à Allah, il est le riche qui se passe de tout et est digne de louange. Subhanahu wa ta'ala. Le Tout-Puissant n'a nullement besoin de nous. Mais c'est nous autres, les faibles créatures, qui avons besoin de lui. Subhana. Ainsi, le cœur a été créé pour pencher vers quelqu'un. Il a été créé pour aimer, pour espérer, pour craindre. À la base, il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors que le serviteur, cette faible personne, va utiliser son cœur pour le remplir d'un amour ressenti, d'un espoir et d'une crainte ressentie pour un autre que son créateur, eh bien en retour, cette créature ne trouvera jamais le bonheur. Certes, elle va jouir de certains plaisirs mondains qui sont futiles et qui ne sont qu'éphémères, mais au final, elle n'atteindra pas le but qu'est la joie par excellence. C'est ce que vous pouvez constater autour de vous, en méditant, pour vous rendre compte combien sont nombreux les gens qui dépriment, combien sont nombreux les gens qui ne trouvent pas la quiétude malgré les biens en abondance desquels ils jouissent. Ils ont fait tout ce que l'un d'entre les gens aurait tant voulu faire, sans pour autant atteindre le bonheur. D'ailleurs, ce sont très souvent les gens qui possèdent le plus de biens qui finissent par dire aux gens qui en possèdent bien moins qu'eux qu'ils ne sont pas heureux et qu'ils n'ont pas atteint la joie ni le bonheur ou la quiétude. Pourquoi ? Ils n'ont pas la réponse à la question « Pourquoi ?» parce qu'ils ignorent. Ils ne savent pas qu'ils ont été créés pour pencher vers leur Créateur, pour l'aimer plus que tout, se soumettre à lui. Ainsi, ils ont été à la recherche d'un bonheur jamais atteint au final. Puisse Allah nous en préserver. Quant au croyant, il sait sans le moindre doute que le bonheur n'est nulle part ailleurs que dans sa proximité avec son Créateur. Car il sait que cette vie d'ici-bas derrière il court et à laquelle il est tant attaché lui a été assujettie par le Créateur. Elle est donc en sa possession. Il a donc compris que pour atteindre le bonheur dans cette vie d'ici-bas, il fallait s'attacher au Créateur de cette vie d'ici-bas et de toutes ses jouissances présentes en son sein. Dans ce but, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans son noble livre qu'est le Coran où se trouve le bonheur. Il nous a d'ailleurs envoyé son noble messager Muhammad, fils de Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous enseigner où se trouve notre bonheur, notre réjouissance. Mais lorsque les gens ont penché vers l'insouciance, ils en ont oublié ou ignoré ces réalités. Pour cela, le rôle des prêcheurs qui appellent les gens à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là est de réorienter les gens vers le bonheur. Et parmi ces grands prêcheurs, le noble savant, le dénommé Abd al-Rahman ibn Nasir al-Si'di, rahimahullahu ta'ala. Ce noble savant de l'islam, originaire de la région de Unayza, dans la péninsule arabique, qui naquit en l'an 1307 de l'Égir, correspondant en l'an 1889 du calendrier chrétien. Et il mourut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, en l'an 1376 de l'Égir, correspondant à l'an 1956 du calendrier chrétien. Il a donc écrit, qu'Allah lui fasse miséricorde, cette lettre que je vais vous lire, incha'Allah ta'ala, et que nous allons tenter de méditer ensemble. traitant de ce sujet qu'est le bonheur. Où est le bonheur? Comment se manifeste-t-il? Comment se gagne-t-il? Il est très intéressant, tout d'abord, de savoir quelle fut la cause et la raison pour laquelle il a pris la décision d'écrire cette lettre qu'il a adressée comme un conseil dirigé à l'ensemble des musulmans et même des non-musulmans d'ailleurs. La réponse à cette question est que ce savant illustre et émérite, qu'Allah lui fasse miséricorde, souffrait de graves maux de tête, au point où il fut transporté au Liban afin d'être hospitalisé et traité sur place. Le médecin, le traitant, lui avait interdit de lire et d'écrire, car cela ne ferait qu'augmenter ses douleurs et ses migraines dont il souffrait. Rahimahullah. Mais un jour, il aperçut dans l'hôpital un livre écrit traitant du bonheur. Ce livre avait été écrit par un homme d'origine des États-Unis et de confession chrétienne. Dans cet ouvrage, il traitait de comment atteindre le bonheur, comment gagner le bonheur. Pris par la curiosité, le cheikh dont nous parlons, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a pris la peine de lire l'ouvrage écrit par cet homme de confession chrétienne dans son entièreté. Après quoi il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il écrive lui aussi un ouvrage traitant du bonheur au regard de l'islam. Et en ce sens, il a demandé à son enfant de lui apporter, à son fils, de lui apporter de quoi écrire. Chose que son fils fit immédiatement. Ainsi, le savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé à écrire. Et c'est ainsi que, souffrant de migraines très douloureuses, eh bien, il a utilisé son temps afin d'enseigner aux gens où est-ce que se trouve le bonheur. Et cela nous montre quelque chose. Dès lors que la personne est attachée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est forte. Elle est tellement forte que dans les situations où la masse des gens va se plaindre, eh bien elle ne va pas se plaindre, mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va enseigner aux gens comment atteindre le bonheur alors qu'elle est dans une situation qui serait pour bon nombre des gens décrite comme étant un malheur. Allahu Akbar. Je vais donc lire cette lettre qu'il a écrite et adressée à l'ensemble des gens, musulmans soient-ils ou non. Je me contenterai, Inch'Allah, de lire directement la traduction en langue française afin que cela soit plus rapide et plus accessible à nos auditeurs. Quant au texte du Coran et des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils seront lus en langue arabe et traduits, Inch'Allah, en langue française. Les sens qui pourront paraître difficiles, bien que cet écrit soit très simple, seront, Inch'Allah ta'ala, éclairés afin que le message puisse passer comme il a été voulu par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ceci étant dit, chers croyants, l'auteur, rahimahullah, nous dit « Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. » Et j'atteste que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, l'unique qui n'a point d'associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Que le salut et les éloges du Seigneur lui soient dirigés sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons. La paix de la conscience, la quiétude, la joie ainsi que la dissipation de l'angoisse et de l'amertume sont revendiquées par chacun de nous. Elles restent la résultante d'une agréable vie pleine de joie et de gaieté. Pour cela, il y a des mobiles religieux, des mobiles naturels et des mobiles opérationnels. Nul ne peut réunir tous ces mobiles à part les croyants musulmans. Quant aux autres, les non-croyants, bien que quelques-uns de ces mobiles peuvent s'appliquer sur eux, sauf que les aspects les plus avantageux et les plus assurés leur échappent. Je citerai dans mon message ci ce qui me revient comme cause de grande requête que cherche tout un chacun de nous à concrétiser. Certains ont pu atteindre beaucoup de ces requêtes et ont pu mener une vie heureuse, alors que d'autres les ont toutes échouées et ont mené une vie misérable. Cependant, les uns les aperçoivent, tant bien que mal, selon le succès remporté. Allah est le conciliateur et le soutien pour réaliser toute bonté ou pour écarter tout péril. Dans cette préface, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous montre de quoi il va parler dans cette lettre. Il nous explique que la joie, la quiétude, la gaieté, la dissipation des peines, des soucis, de l'amertume, des tristesses sont des choses recherchées par tout un chacun. Et nous sommes tous associés dans ces objectifs, que nous soyons croyants ou non croyants. Et elles sont le résultat d'une vie pleine de joie, une vie réussie. Elles ont des causes y menant. Certaines sont religieuses, et elles représentent la base, telles que la foi, l'attachement à Allah, le fait de se conformer à ses ordres et le délaissement de ses interdits, la connaissance de notre Créateur par ses noms et ses attributs par lesquels il s'est nommé, par lesquels il s'est décrit, exalté soit-il, c'est certes la base du bonheur. Car quelqu'un qui ignore qui est son Seigneur, ignorera qui il est. Il pensera de lui ce qu'il n'est pas. Il y a des mobiles qui sont naturels et d'autres opérationnels. Naturels, tels que le fait de posséder des biens en abondance, le fait de pouvoir jouir des désirs de ce bas monde comme on le veut, comme on le souhaite, et d'autres choses encore. Et la seule personne pouvant réunir toutes ces choses, c'est la personne croyante, connaissant son Créateur, attachée à lui, seul, subhanahu wa ta'ala, et jouissant des biens de ce bas monde qui lui ont été octroyés. Le croyant prend ce que son Créateur lui donne, mais il n'est pas distrait quant au fait que ce que son Créateur lui a donné n'est qu'un moyen utilisé ou qui doit être utilisé pour atteindre la satisfaction au final de son Créateur, qui est le but, l'objectif ultime du croyant. Alors qu'une autre personne pourrait jouir des biens qu'elle s'est vue octroyer, qu'elle a pu acquérir par la facilité que lui a accordé son Créateur, subhanahu wa ta'ala, au point d'en être distrait et de penser que ses biens sont un but. La voici alors qu'elle s'attache à ses biens, que ce soit de l'argent, que ce soit des biens matériaux ou d'autres choses qui sont éphémères. Et la voici emprisonnée au final. La voici emprisonnée dans la cage de ses passions, desquelles elle n'arrive plus à sortir, comme c'est le cas de beaucoup de gens. Le seul pouvant réunir toutes ces choses menant au bonheur, c'est le croyant. Ainsi, dans cet ouvrage, il va nous enseigner, rahimahullah, comment atteindre le véritable bonheur. Et quand nous parlons du véritable bonheur, nous parlons du bonheur qui est recherché par tout le monde, sans exception. Que ces gens soient croyants en Allah, athées, ou qu'ils soient adeptes ou pratiquants d'autres religions, eh bien, ils recherchent tous la même chose. C'est seulement la manière d'y arriver qui varie d'une personne à une autre, d'une confession à une autre, peut-être d'une origine à une autre, d'un rang social à un autre. Mais en réalité, le bonheur, lui, il n'est pas multiple, il est unique. Et c'est ce dont on va parler ici, incha'Allah ta'ala. L'auteur a dit, premier chapitre, la grande cause, la base même de ceci, c'est la foi accompagnée des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dans le sens rapproché du verset: Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Sourate les abeilles, verset 97. Dans ce noble verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'unique voie, le seul chemin permettant à la personne d'atteindre le bonheur. Il nous dit que la personne voulant atteindre le bonheur doit remplir les conditions suivantes. Elle doit avoir la foi et faire de bonnes œuvres. Lorsque nous disons la foi, il s'agit ici de cette foi dont le Coran a parlé, et pas de toutes ces choses qui sont appelées la foi, certes par beaucoup de gens, mais qui ne sont pas la foi comme le Coran l'a voulu. Et la foi comme le Coran l'a voulu, c'est la connaissance du Créateur subhanahu wa ta'ala, l'attachement à lui et la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il apparaisse bon ou mauvais. Ce sont toutes ces choses que la personne doit avoir en elle. Ce sont des convictions, un dogme, un credo, une croyance à laquelle elle est attachée. Car c'est cela qui libère la personne dès lors qu'elle est rattachée à son Créateur et qu'elle connaît le but de son existence. Elle sait ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous après sa mort. Il y aura un jugement, une destination finale qui sera soit le paradis, soit l'enfer. Elle sait pourquoi est-ce qu'elle doit faire telle chose, délaisser telle autre chose. Eh bien, dès lors qu'elle a dans son cœur cette croyance, elle se voit libre. Elle goûte au véritable bonheur, elle a la vraie liberté, car elle est attachée au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs cette foi qui va pousser cette personne à faire de bonnes œuvres. Et lorsque l'on parle de bonnes œuvres dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons savoir qu'il s'agit des œuvres conformes à ce qu'il a prescrit, ainsi que son noble messager qui n'a été envoyé, alayhi salatu wassalam, que pour nous enseigner ce qu'il a prescrit, subhanahu wa ta'ala. Lorsque la mention des bonnes œuvres est faite dans le Coran et la Sunna, nous devons savoir qu'il s'agit des œuvres prescrites, légiférées, en d'autres termes, aimées par le Créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Créateur nous enseigne que dès lors que nous adhérons à la croyance qu'il a révélée et que nous nous conformons aux œuvres qu'il a prescrites dans son livre et à travers les récits de son noble messager, il nous dit « فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا » Nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous devons savoir que quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en employant « نَحْنُ » ou alors en disant « nous », il ne faut pas comprendre qu'il s'agit de plusieurs qui s'adresse à nous, ou alors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les anges. Non, Allah ne parle ici que de lui. Et ce « nous » qui est utilisé par une personne est bien connu dans la langue française, notamment lorsque les anciens rois s'adressaient à l'assistance, ils disaient « nous avons fait », alors qu'ils ne faisaient que parler d'eux-mêmes. Et ils utilisaient cette forme pour dire combien ils étaient grands devant le peuple qu'ils dirigeaient. Eh bien, Allah Azza wa Jal utilise cela pour nous dire combien il est grand, bien qu'il soit le seul à pouvoir véritablement l'utiliser. Vous comprendrez donc qu'Allah ne fait que parler de lui seul. Nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Non seulement ces gens-là vivront une bonne vie, ils seront heureux, Ils vivront dans la gaieté, dans la joie, pleinement épanouis. Mais en plus de cela, lorsqu'ils rencontreront leur Créateur subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils seront rétribués en fonction des meilleurs de leurs actions. Allah a notifié et a promis une vie heureuse, une meilleure récompense à toute personne qui joint à la foi les bonnes œuvres, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. La raison est claire. Ceux qui croient en Allah, disposant d'une foi parfaite, source de bonnes œuvres, de bonnes mœurs et de bonnes actions dans leur vie, dans le bas monde tout comme dans l'au-delà, ceux-là disposent des principes leur permettant d'obtenir tout ce qui est vecteur de joie et de gaieté, de résister devant les mobiles de la tristesse, de l'angoisse et de l'amertume. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à affronter les situations qui sont pour d'autres personnes des plus pénibles avec la plus grande facilité? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à vivre une vie pleine de joie pendant que d'autres vivent une même vie pleine de gêne? Eh bien, c'est la foi qui habite leur cœur et qui est venue libérer leur cœur de l'amertume de cette vie d'ici-bas. L'auteur a dit « Ils accueillent favorablement toute affection et satisfaction en remerciant. Ils en font bon usage. S'ils s'en servent de cette manière, cela leur procurera la gaieté comme ils en désireront. Qu'elle perdure et qu'elle soit bénie. Ils espèrent en même temps une récompense grandiose qui dépasse de loin ces gaietés dont ils ont récolté les fruits. » C'est-à-dire que lorsque la personne dont le cœur est habité, nourri par la foi en Allah, et dont les membres de son corps manifestent des bonnes actions plaisant à Allah, subhanahu wa ta'ala, cette personne fait bon usage des bienfaits d'Allah lorsqu'elle se voit honorée par Allah d'un quelconque bienfait. Nous n'hésiterons pas dans ces interventions à citer des exemples de la vie de tous les jours pour illustrer au mieux, tant que possible, ce qui est voulu, inshallah ta'ala. Ici, nous pourrons citer le fait de jouir de la bonne santé, le fait d'avoir une richesse, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir des biens mondains et toute autre chose licite qui sont de bonnes choses quand elles sont utilisées dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, s'ils s'en servent dans l'obéissance à leur Créateur subhanahu wa ta'ala et s'ils se montrent reconnaissants envers lui car ils savent que ces bienfaits ne viennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils ressentiront dans leur cœur à cause de cela, une gaieté, un épanouissement, un bonheur, une joie telle qu'elle sera au final meilleure que le bienfait qu'ils ont eu. La personne qui a eu des biens en abondance, qui jouit de la bonne santé, qui a eu des enfants ou toute autre chose qui sont de bonnes choses, et qui sait, car elle connaît son Créateur subhanahu wa ta'ala, elle sait qu'il est le seul à l'avoir gratifié de ses bienfaits, il est le seul à l'avoir octroyé, à lui avoir octroyé ses bienfaits et lui avoir fait don de ses grâces. Eh bien, cette personne est concentrée sur le bienfaiteur. Et lorsqu'elle voit les bienfaits desquels elle jouit, en réalité, elle ne voit qu'Allah. Elle ne voit que le bienfaiteur. Et elle se dit, il a été miséricordieux envers moi quand il m'a fait don de ce qu'il a privé, de ce dont il a privé, pardon, beaucoup parmi les autres. À ce moment-là, elle éprouve un amour pour son Créateur, subhanahu wa ta'ala, et elle sent dans son cœur une liberté, un apaisement, une quiétude, une proximité, toutes ces choses qui sont beaucoup plus importantes que le bienfait qu'elle a reçu, pour lequel elle s'est montrée reconnaissante. L'auteur dit, ils font de la résistance devant les exécrations, c'est-à-dire ils se montrent endurants devant les choses difficiles relevant de la détresse, les malheurs, les angoisses et amertumes comme ils le peuvent. et ils s'arment d'une belle patience pour celles dont ils sont incapables d'agir. C'est ainsi qu'ils auront comme fruit de leur récolte une résistance favorable, une expérience et une force. Néanmoins, ils auront comme fruit de leur patience et de leur espoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront des grandes choses dissipant toute exécration qui sera remplacée par des satisfactions, des bons espoirs, de l'envie, de la grâce d'Allah et de sa récompense. Subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé de la manière de faire face au bonheur reçu par le croyant. Maintenant, il nous parle de la façon d'agir du croyant lorsqu'il fait face à une difficulté. Car comme vous le savez tous dans la vie, il y a des bonheurs, des malheurs, des joies, des tristesses. Eh bien, ces gens-là, lorsqu'ils font face à des tristesses, à des malheurs, à des angoisses, ils les affrontent comme ils le peuvent. Ils s'arment d'endurance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la foi dans le cœur. Cette foi qu'ils ont appris, qu'ils ont étudié, leur fait dire que ce malheur est décrété par le Créateur, subhanahu wa ta'ala, et donc il renferme forcément une sagesse, voire même plusieurs sagesses, dont certaines sont connues, d'autres le seront peut-être plus tard. Combien de gens dans cette vie d'ici-bas, même ceux qui ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, ont fait face à des difficultés dans leur vie qu'elles n'appréciaient pas, et au final, longtemps après, elles se sont dit, finalement, si cette chose ne m'était pas arrivée, j'aurais fait telle et telle chose qui m'aurait conduit à telle conséquence néfaste. C'est facilement reconnaissable dans la vie, dans les expériences de la vie d'ici-bas. Le croyant, lui, comme il connaît Allah, il n'a pas besoin d'attendre la fin de l'épreuve pour le savoir. Il sait que son Créateur est parfait, il sait que son Créateur est sage, il sait d'avance que si son Créateur a décidé de l'atteindre, de lui décréter cette douleur, cette détresse, cette épreuve, c'est forcément qu'elle renferme un bien. C'est ainsi qu'ils auront comme fruit de leur récolte une résistance favorable. Et si ces gens-là ne peuvent pas repousser le malheur qui les a atteints, eh bien, à ce moment-là, ils endurent et espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est immense. Lorsque la personne comprend bien cela, eh bien, elle gagne une joie et un bonheur qui est celui recherché par tout le monde, mais qui n'est pas trouvé. Il n'est pas trouvé parce qu'ils font erreur. Et seul le croyant peut atteindre ce bonheur. D'ailleurs, le noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit dans le récit qui nous est relaté par le noble compagnon Suhaib, qu'Allah l'agrée, et l'on retrouve facilement ce récit, notamment dans le recueil de récits authentiques, prophétiques de l'imam al-Bukhari ou de l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min, in asabathu sarra shakara fa kana khayran lah, wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lah. » Étonnante est l'affaire d'un croyant, le croyant musulman. Toutes ses affaires se vouent à son avantage. S'il lui arrive d'être joyeux, il se montre reconnaissant, c'est-à-dire envers Allah, et cela lui est meilleur. S'il lui arrive du mal, il endure, cela lui est meilleur. Cela n'est offert à aucune personne à part un croyant. Pourquoi il en est ainsi? Car c'est la foi qui fait la différence entre une personne et une autre, dans la manière de réagir à des peines, à des malheurs, à des détresses, des difficultés qui nous touchent dans la vie d'ici-bas. Et lorsque la personne a un cœur habité par la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, elle sait que ce qui est décrété l'a été pour une sagesse, alors elle patiente. Elle attend l'issue favorable que lui accordera son Créateur d'une façon ou d'une autre. Et donc, elle se verra totalement libérée. Et c'est sur ce sujet que nous nous arrêtons et que nous reprendrons, si Allah nous l'accorde, demain, inshallah ta'ala. Allah est plus savant. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.